Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Gilles Berset.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur à Neoma Business School et donc vous publiez « Travailleurs, mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse ». Je vais vous faire réagir tout de suite et on pouvait en avoir un petit avant-goût si on lisait les échos d'avant-hier. Avec nous aussi Lionel Fontanier, bonjour.
Bonjour.
Professeur à Paris à Panthéon-Sorbonne, membre du Cercle des économistes. Et Pierre-Henri de Menton, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de Challenge. Alors à la une de Challenge cette semaine, intelligence artificielle, qui perd, qui gagne. Alors je sais que vous avez une tradition qui est de ne pas mettre de point d'interrogation à la une de Challenge. Et je partage aussi ces points d'interrogation dont les médias raffolent pour dire des choses sans vraiment assumer ce qu'il y a derrière. Moi je considère qu'on met un point d'interrogation si on répond à une question. Et en fait je me suis dit, point d'interrogation ou pas, en fait je suis incapable de savoir qui perd, qui gagne. Et c'est trop tôt. Voilà.
Vous avez une quinzaine de pages par les métiers. Enfin, ça, c'est clair. Hein, il y a des métiers. Et une très bonne, puisqu'on a des éminents économistes, une très très bonne chronique de Philippe Aguillon sur le sujet. Voilà.
Ah ben, il va venir bientôt.
Sujet schumpeterien.
Ah ben, par excellence. Philippe Aguillon,
grand spécialiste.
Il vient, je ne sais plus, mais dans une quinzaine de jours, je crois qu'il sera avec nous. Oui, qui perd, qui gagne. Alors, j'ai vu que les traducteurs, c'était la cata.
Ah ben,
oui. Eux, c'est.
Ça paraît assez évident, c'est terrible, mais voilà, c'est un exemple vraiment flagrant. Après, il y a des dans ceux qui gagnent, il y a par exemple, c'est amusant, les cabinets de conseil, par exemple. Hein. Toutes les entreprises sont paniquées en disant, faut me faire un audit, qu'est-ce que je peux gagner avec l'IA, etc. Mm-hmm. Donc, c'est le vecteur de croissance pour les cabinets de conseil cette année, sachant qu'eux-mêmes sont affectés dans d'autres activités, comme par exemple, ils font généralement de l'audit et de la comptabilité aussi, où là, effectivement, il y a une forme de robotisation de col blanc qui se produit.
On a eu une enquête réalisée, comme chaque année, avec Eurogroup Consulting, où en fait, c'est bien, on parle d'IA, mais quand vous interrogez les patrons de PME, ils sont complètement largués.
Ah,
complètement largués. Ils ne savent pas les cas d'usage, ils ne savent pas comment ils vont pouvoir mettre ça en place. Il y a toute une remise à plat du traitement de la donnée. Pour eux, c'est du chinois.
Cabinet de conseil, c'est une... qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh ben, on va demander une étude pour savoir, dans ma boîte, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ouais. Et vous avez des consultants qui arrivent pour des mois, c'est formidable pour eux.
Est-ce que vous me permettez une petite réaction?
Gilles Berset, un peu plus près du micro, Gilles Berset.
Qui perd, qui gagne, je trouve que c'est toujours une approche un peu particulière. C'est-à-dire quand le porteur d'eau a disparu à Paris à la fin du 19e siècle.
C'était pas les sujets prévus.
Est-ce qu'il a perdu? Vous voyez, qu'il ait perdu et qu'il ait disparu?
En tout cas, on n'a pas envie de faire machine arrière.
Grâce aux canalisations, réservoirs d'eau dans les villes, etc. Il y avait 20 000 porteurs d'eau à Paris.
Bien sûr, il y a les calèches,
Donc, la société gagne à ce que des boulots disparaissent ou des parties de boulots disparaissent. Tout le monde.
C'est la transition.
Tout le monde. Alors, évidemment, c'est l'accompagnement qui est complexe. L'accompagnement des gens pour qu'ils passent de certains jobs à d'autres jobs ou que le contenu de leur job évolue. Mais en soi, le progrès technique, tout le monde ici, on en profite tous. Et la disparition du porteur d'eau, c'est un bienfait.
Oui, mais Gilbert,
pour le porteur d'eau lui-même.
Oui, mais Gilbert, si moi je suis traducteur français-anglais, que c'est mon métier, que je le fais par écrit, que je le fais en traduction simultanée, que je découvre que d'un coup d'un seul, en l'espace de très peu de temps, hop, c'est fini.
Ouf. Ah ben, il y a une transition complexe.
Voilà, transition complexe. Alors j'ai vu que
Il y a de la formation. Enfin, exactement. Aguillon dit exactement ce que dit Gilbert.
Ah ben, je connais bien les positions de Philippe Aguillon.
Personne ne sait dans ce type de révolution technologique.
Absolument.
Où on arrivera dans 5 ans.
Mais exactement. À côté de ça,
comme de toutes les révolutions technologiques.
Je comprends aussi les réactions de certains auditeurs qui entendent des professeurs académiques très cultivé, leur expliquer la destruction créatrice.
Ouais.
Sauf que quand t'es dans un bassin d'emploi en pleine destruction et que la création n'est pas là, ça te fait une belle jambe d'entendre un prof d'économie qui te dit ouais, bah, Schumpeter. Schumpeter.
Alors là, je suis obligé d'intervenir.
Intervenez.
Professeur d'économie.
Vous savez, Lionel, que la parole est libre ici.
Voilà, alors, donc c'est une vraie discussion.
Bienvenue Schumpeter qui s'est invité à du débat.
Donc, l'évidence que l'on a, c'est qu'il y a une différence de calendrier, une différence d'horizon entre les perdants et les gagnants, etc. Donc, pour parler d'un sujet qui est connexe, mais où les mécanismes sont exactement les mêmes, l'ouverture au commerce international à la concurrence de la Chine. Il y a eu énormément de travaux aux États-Unis qui ont été faits, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits en France, et ils trouvent tous la même chose. C'est-à-dire, au niveau local, évidemment, il y a des pertes instantanées dans un certain nombre de régions, de bassins d'emploi qui sont spécialisés sur les industries qui sont exposées à la concurrence. Donc, ces gens-là perdent objectivement. Mais au niveau global, au niveau macroéconomique de l'économie dans son ensemble, il y a un gain. La difficulté qu'il y a, c'est que le gain global est supérieur à la somme des pertes. Donc, il reste quelque chose pour indemniser les perdants. Mais la seule question, c'est comment la société s'organise-t-elle pour indemniser les perdants de façon efficace, pour les accompagner dans cette transition. Absolument. Et typiquement aux États-Unis, c'est ce qui n'a pas été bien fait. Et c'est pour ça que dans le Rust Belt, etc., on vote sur des partis plus populistes. C'est tout simplement parce que l'économie américaine a bien profité de l'ouverture, mais n'a pas su accompagner l'ouverture par une redistribution suffisante vers les perdants. Et il ne s'agit pas simplement de redistribuer de l'argent, du revenu, il s'agit aussi de redistribuer les cartes. Et en France, on a redistribué beaucoup de revenus, mais on n'a pas redistribué les cartes. Et donc, il se trouve que dans certains bassins d'emploi, qu'on le veuille ou non, eh bien, les salariés qui sont en déshérence, qui ont perdu leur job, il faut regarder les choses en face, n'ont pas le kit de survie dans la société nouvelle pour adresser les nouveaux sujets, comme l'intelligence artificielle, par exemple.
Oui. On va arriver sur le livre de Gilbert.
J'ai vu un truc ce matin, justement, à propos des traducteurs. Si vous êtes traducteur français-japonais, vous êtes tranquille. Il paraît que visiblement, l'IA s'en sort pas encore avec les langues asiatiques et qu'il va falloir.
Pas encore.
Bon, les cahiers du DRH, je signale les cahiers du DRH. Les cahiers Lamy, car le numéro 313 de novembre 2023 que vous m'avez apporté ce matin, c'est évidemment, on peut trouver ça en ligne, j'imagine. A rendu hommage à 20 ans de travaux que vous avez menés avec l'ineffable Barthélémy, l'ineffable Jacques Barthélémy, avec qui vous avez coécrit tant de livres. Voilà.
Donc, très content de ça, et Jacques est également aussi. 20 ans de travaux, de réflexion sur comment réformer le marché du travail de façon à aboutir à des changements win-win.
Vous avez gardé la foi sur le fait que vous faites partie des gens, et vous êtes très nombreux, à apporter une collaboration à la réflexion générale. Et moi, j'ai rencontré certaines de personnes que nous connaissons, des économistes, considérant que ça fait 20 ans qu'ils écrivent des bouquins, et en fait, ils se demandent si quelqu'un les lit, si ça sert à quelque chose. Et quelquefois, ils sont un peu désespérés de voir que toutes ces sommes d'intelligence et de travaux réalisés, eh bien, l'acteur politique a souvent du mal à s'en emparer.
Moi, je trouve que ce qu'on a préconisé sur ces 20 dernières années, Jacques Barthélémy et moi, est pour une bonne part passé dans le droit positif. Les ordonnances travail, et d'ailleurs la personne qui est devenue notre président pendant sa campagne en 2017, disait s'inspirer de nos travaux à Jacques et moi. Donc il y a pas mal de changements, je ne vais pas vous les énumérer, et puis j'espère que ça continuera d'ailleurs. Il y a pas mal de changements du droit positif qui s'inspirent très très largement de nos préconisations. C'est une grande satisfaction qu'on peut avoir Jacques et moi, effectivement.
Parce que quelquefois, ce qui me frappe, c'est de voir qu'on lance des groupes de réflexion, des groupes de travail sur des sujets qui ont déjà été renseignés. Vous avez vu qu'il y a actuellement justement deux missions de réflexion sur la France laborieuse. Oui. Il y a une mission parlementaire et une mission d'économiste. Je crois qu'on a un tout petit peu de billes déjà sur ces thématiques. Bon, parlons-en, allez. Parce que là, en fait, on vient de parler pendant 10 minutes. Ça fait partie du... Voilà. La France laborieuse, vous mettez en avant le décalage entre les hausses de SMIC et le phénomène d'actualisation ou pas des minima de branche, l'effet de l'indexation d'un seul et unique salaire qui est bien sûr le SMIC, l'épuisement des gains de productivité, le sujet que seuls les économistes comprennent, et encore. L'empilement de tous les dispositifs dégressifs de baisse de cotisation patronale, et puis bien sûr des cas spécifiques où on apporte du revenu mais pas du salaire, avec la prime d'activité ou les APL, et donc c'est du revenu mais pas du salaire, donc il n'y a pas de droits sociaux associés. Et en fait, vous nous dites que si on veut désmicardiser, il faut accepter de faire des perdants. J'essaie de résumer un peu trash.
Oui, dans le discours d'orientation générale du Premier ministre, ce thème est venu à deux titres. D'une part, il a été mentionné le fait que beaucoup de branches se retrouvent en non-conformité. Non-conformité, ça veut dire que au moins un des minima salariaux est inférieur au SMIC.
Il y a une branche qui en a 10, je crois.
Et puis, par ailleurs, que le nombre de personnes au SMIC a augmenté, la proportion de personnes au SMIC, de salariés au SMIC, a augmenté considérablement sur les dernières années. Alors, sur le premier point, moi, je crois qu'il n'y a pas tellement, quand même, d'affolement à avoir. Il est assez logique qu'à chaque revalorisation du SMIC, il y a un nombre de branches très important qui se retrouve non conforme.
Car ça va très vite, on la prend très tard.
Pourquoi ? On la prend très tard. On la prend le 15 d'un mois pour une augmentation du SMIC qui a lieu le 1er du mois suivant. Donc dès le préavis est très très faible. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays au monde où il y a un délai de préavis aussi court.
On pourrait imaginer
aussi
un mécanisme
court.
Automatique de revalorisation des minima de branche dans la mesure où le SMIC est revalorisé.
On va y venir, mais vous voyez, donc il n'est pas surprenant que beaucoup de branches soient surprises. En Allemagne, on connaît mais des mois à l'avance, voire des années à l'avance, les relèvements du salaire minimum. C'est une différence considérable.
Juste
pour finir là-dessus, quand on interroge la Direction Générale du Travail, elle nous dit... Sur 171 branches que nous suivons, il n'y a qu'une dizaine qui sont structurellement non conformes, où il y a un défaut de négociation
structurellement
collective.
Structurellement non conforme,
d'accord. Où il y a un défaut de négociation collective. Pour les autres, circuler, il n'y a rien à voir. Ça se fait progressivement après chaque revalorisation du SMIC.
Entendu.
Pour rappeler que depuis
est-ce
le 1er janvier.
Grave, moi, c'est
attends,
une question que
depuis
je...
le 1er janvier 2021,
on fait pas 8, parole,
augmentations, 8 augmentations du SMIC.
Oui,
c'est... Pour près de 15% d'augmentation, 14,8.
Si.
C'est quand même considérable.
C'est grave, parce que si vous êtes, je ne sais plus laquelle, mais il y a une branche, je crois, qui est allée jusqu'à 11 seuils en dessous du minima. Donc si moi je suis dans cette branche, je suis au seuil 1, et puis j'ai un collègue au seuil 2, au seuil 3, au seuil 4, on ne devrait pas être payé pareil. Mais comme tout ça c'est en dessous, eh bien on est tous payés au même salaire.
Les voitures balayent rattrapent.
Et donc,
mais
évidemment,
est-ce que c'est grave? Quel est le... une bizarrerie, comme il y en a beaucoup.
Je suis
c'est une bizarrerie administrative et comptable. Mais le salaire minimum, c'est le salaire minimum. Donc
oui.
Il fait voiture balai.
Ah, il fait voiture balai. C'est pas très motivant de se dire qu'on est au seuil 9 de la branche.
On est plus dans des chikungunya bureaucratiques.
Non,
je sais pas. J'ai pas l'impression que ça soit. Mais je pense que c'est un très mauvais signal.
Que la personne se dit, je gagne un peu plus que le nouvel arrivant qui a un peu les mêmes fonctions dans l'entreprise. Il est rattrapé par le nouvel arrivant, ils ont le même salaire. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu démotivant.
Et puis,
c'est désincitant. Quoi.
Et puis, Pierre-Henri, il y a aussi un phénomène de coût pour les finances publiques, parce que tous ces gens qui voudraient finalement être au-dessus, ils sont au niveau du SMIC où il y a le max de baisse de quasi zéro cotise patronale. Ça, ça y est, la facture. Je vous rappelle qu'on est à 70 milliards d'euros de baisse de cotisation sociale en France.
Plus. Près de 80, oui. Oui, 80. On est plus à 80. Alors, l'autre problème, c'est l'accumulation des salariés au SMIC. On est à un maximum historique. 17,3% des salariés étaient au SMIC au 1er janvier 2023. On n'a pas encore le chiffre du 1er janvier 2024. C'est considérable, c'est un maximum historique. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui et non. Non, on a déjà connu des situations semblables en 2005 et ensuite ça a baissé très très fortement sur les deux années suivantes grâce à la négociation collective. Le problème, c'est que maintenant il y a beaucoup de désincitation à la mobilité salariale. D'abord, on a peu de moyens de payer des hausses de salaire, il n'y a plus de gains de productivité en France, voire en moyenne il y a des pertes de productivité. Et puis, l'autre raison, on en parlait tout à l'heure avec Lionel, il y a des désincitations pour augmenter de 100 euros net par mois le revenu disponible d'un salarié célibataire à temps plein au SMIC, il en coûte 483 euros au chef d'entreprise.
Et Gilbert, c'est à 1 SMIC ça? Parce que j'avais lu ce chiffre à 1,6 SMIC. C'est à 1 SMIC ou 1,6 SMIC?
Non, là c'est à 1 SMIC. C'est
à 1 SMIC.
Au niveau du SMIC.
100 euros de plus égale 483 euros pour le chef d'entreprise.
Exactement. Donc le chef d'entreprise qui veut accorder une augmentation de salaire à un de ses salariés performants, qui donne de lui-même, qui est engagé, motivé, etc.
C'est trop cher.
Eh bien, ça sera divisé par 5 pour le salarié
Gilbert,
en termes de revenus.
Il faut qu'on avance. C'est l'impasse, vous me décrivez l'impasse.
Ah ben il faut remettre à plat tous ces dispositifs, mais la difficulté de remise à plat de tous ces dispositifs, c'est qu'à coup nul pour les finances publiques, on est quand même dans cette problématique en ce moment, il y a forcément des perdants parmi des gens qui ne sont pas des nantis. Donc c'est une véritable difficulté.
Vous avez identifié les perdants?
Ah ben, ça dépend de la remise à plat, bien évidemment. Donc si on veut remettre à plat l'empilement de la dégressivité des allègements de cotisations sociales, la dégressivité de la prime d'activité, la dégressivité des appels, la progressivité de l'impôt sur le revenu, tout ça, c'est considérable comme chantier. Mais soit on y met beaucoup d'argent pour qu'il n'y ait pas de perdants, et on en met déjà énormément, et puis l'actualité n'est pas celle-là, soit il y a forcément des perdants. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on aura malgré tout le courage de s'engager dans cette direction, un peu comme le Premier ministre a eu le courage d'annoncer la disparition de l'ASS pour le versement dans le RSA des chômeurs.
C'était très courageux de faire disparaître l'ASS, ça concerne 240 000 personnes.
Ah oui, c'était très courageux.
En termes de signal, on va dire.
En termes de signal.
Je rappelle, parce que l'ASS donne sans travailler des droits à la retraite, ce qui n'est pas le cas du RSA.
C'était une petite spécificité française, ce genre de dispositif. On les cumule, les spécificités françaises.
La permittence, le SJR, le salaire journalier de référence, c'était des spécificités française. Vous voyez, là, vous venez de décrire quelque chose. Je pense que ça fait partie de ce qui pousse certains économistes à être déçus de voir qu'ils apportent des réflexions profondes sur des sujets et que le chantier est tel que je pense que.
On va préférer
y mettre de l'argent et de
la dette. Je trouve que sur la pauvreté au travail, vous voyez, c'est le thème de.
Oui, la France laborieuse.
Il coûte moins de 22 euros.
Voyons, je le précise. 21,90. 21,90.
Moins de 22. Dire que les facteurs de pauvreté, c'est pas le salaire horaire. Les principaux facteurs de pauvreté des travailleurs, c'est le faible nombre d'heures travaillées. C'est ça le principal facteur de pauvreté. Et le deuxième facteur de pauvreté, c'est la configuration familiale. C'est-à-dire le taux de pauvreté moyen est de 14%. Le taux de pauvreté d'un travailleur à temps plein, c'est 5%. Et par contre, le taux de pauvreté d'un adulte en famille monoparentale, c'est de plus de 30%. Vous voyez, c'est ça le drame. Et on pense bien sûr aux mères célibataires qui ont à charge l'éducation de leurs enfants, le financement de cette éducation, des frais de garde, etc. Et qui sont, pour près d'un tiers d'entre elles, en situation de pauvreté laborieuse. Donc l'action doit se faire pour lutter contre le temps partiel choisi. Subi pour aller vers uniquement du temps partiel choisi. Faut essayer d'accompagner les personnes.
À coût nul pour les finances publiques.
Voilà. Et puis les gardes d'enfants, les aides aux gardes d'enfants, etc. Pour évidemment les familles monoparentales en particulier.
Quand le chantier est ouvert, vous revenez bien sûr et on décrypte.
Ah, il est ouvert. Sur les gardes d'enfants, beaucoup de choses ont été décidées sur les 2-3 dernières années. Il faudra voir maintenant si ça mord sur la bonne population. C'est des choses d'une complexité inouïe, ce genre de choses. Donc voilà, des dispositifs ont été créés. Maintenant, il faut du recul pour les évaluer.
On fait qu'introduire le sujet car on a 1:20, Lionel Fontanier. Mais voilà quelque chose qui n'est pas à coup nul pour les finances publiques, à tel point que le bonus écolo pour la moitié des Français les plus aisés passe de 5 000 à 4 000 euros pour se payer une voiture électrique. Et puis le leasing social à 100 euros a tellement bien marché. On devait en avoir 25 000, on en a finalement validé 50 000, on arrête tout, ça a déjà coûté plus de 600 millions d'euros. Deux faits d'actualité sur lesquels vous vouliez réagir. Vous nous introduisez le sujet, on marque une pause.
Oui, donc je complète ce qui vient d'être dit. Pour les ménages les plus aisés, c'est-à-dire les moins aisés, donc le bonus reste à 7 000 euros.
Il reste à 7 000.
Et un point qui est passé un peu sous le radar dans les médias, si je peux me permettre, c'est qu'on a supprimé le bonus écologique pour l'achat de voitures particulières par les entreprises, par ce qu'on appelle les personnes morales. Donc ce bonus était de 3 000 euros. Donc est-ce que c'était une bonne idée ou pas? On peut en discuter. En tout cas, celui-ci a été supprimé. Et donc, ce qui est vraiment important pour la population, c'est la fin de ce leasing, de cette formidable mesure qui proposait pour les ménages modestes une voiture à 100 euros par mois, une voiture électrique à 100 euros par mois en leasing. En 6 semaines, il y a eu 50 000 commandes, sachant que le marché dont on parle, la catégorie de revenus dont on parle, ces ménages-là achètent en moyenne 100 000 euros de voitures, 100 000 voitures par an. Voilà. Et donc là, en une année. Et donc là, en 6 semaines, on a fait autant qu'en 6 mois.
On réagit à ces deux éléments. Si je les avais mis souvent dans le programme, en fait, on n'a pas vraiment disserté dessus. C'est l'occasion. Et puis, on fera un peu de semaine de 4 jours. C'est toujours bon, la semaine de 4 jours, n'est-ce pas? À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.